Mars, la nouvelle odyssée, au-delà de la planète rouge, Olivier Aymon.
Elle se cacherait aux confins de notre système solaire, remplaçante de Pluton au titre de 9e planète tournant autour du Soleil. Voici la mystérieuse planète 9, dont on cherche encore à confirmer l'existence, en essayant de la détecter, parce qu'aujourd'hui on ne la connaît que sur le papier.
Si on découvre la planète 9, et avec les propriétés déduites par ce confinement orbital, elle aurait une masse entre 5 et 7 masses terrestres. Donc une masse typique des planètes les plus abondantes dans la galaxie autour des autres étoiles.
Alessandro Morbidelli est directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur et responsable du programme d'équipement prioritaire de recherche Origine. Direction donc avec lui les confins du système solaire. Et cette planète a l'existence avérée ?
Les observations ont montré que les petits corps qui sont les plus lointains du Soleil, donc des objets qui ont des orbites très allongées, qui passent relativement près des Neptunes, mais qui peuvent aller très loin sur leur orbite, une orbite très elliptique qui les amène à 500, 1000 unités astronomiques, donc 1000 fois la distance Terre-Soleil. Mais ces objets ont des orbites qui ne sont pas uniformément distribuées dans l'espace comme on s'attendrait, mais au contraire, leurs orbites sont toutes alignées. Alors c'est très étonnant parce que les perturbations gravitationnelles devraient les faire tourner autour précessées, on dit techniquement. Donc l'orbite, l'orientation de l'orbite tourne dans l'espace sur quelques millions d'années. Donc même si à l'origine, par hasard, ces objets étaient sur des orbites proches, par exemple issus d'une collision, etc., cette précession différentielle devrait éparpiller leurs orbites uniformément sur les plans de l'écliptique dans les ciels. Or, ces orbites sont encore toutes alignées. Et donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui garde les orbites alignées. Donc, il faut une force gravitationnelle qui n'est pas celle des planètes connues. D'où l'idée qu'il y ait une 9e planète. Et on peut calculer, grosso modo, quelles sont les caractéristiques de cette planète pour pouvoir confiner toutes ces orbites sur cette direction privilégiée, qui est la direction observée.
Donc cette existence potentielle d'une 9e planète, elle est le fruit de déductions et d'observations.
Oui, tout à fait. Donc on est dans les cas un peu analogues à celui qui a conduit à la découverte de Neptune. Donc à l'époque, seulement 7 planètes étaient connues, Uranus. Uranus avait un mouvement anormal qu'on ne pouvait pas expliquer par les perturbations des planètes connues. Et ceci induit les Verriers en France et Adams en Angleterre à postuler l'existence d'une 8e planète. Leur problème était peu plus simple que le nôtre avec la planète 9, parce que là, il s'agit de perturbations directes qui s'exercent sur une période qui est la période orbitale. Et alors que dans le cas de la 9e planète, il s'agit de perturbations séculaires, donc ce n'est pas les mouvements de la planète sur son orbite qui comptent, mais c'est les mouvements de l'orbite tout ensemble qui comptent, ce qui prend des millions d'années. Donc les calculs pour Neptune étaient plus abordables et donc ont permis vraiment de déterminer la position de Neptune avec une précision suffisante pour guider les observateurs, Gall notamment à Berlin, et découvrir la planète. Dans les cas de la 9e planète, on peut calculer quelle doit être l'orbite de la planète, mais on ne sait pas où est la planète sous son orbite.
Mais c'est une théorie assez récente finalement, c'est 2016.
Les premiers articles vraiment qui donnent des bases crédibles à cette hypothèse est de 2016, dont Battigin et Brown. C'est un article que j'avais expertisé à l'époque. Les articles scientifiques sont expertisés par d'autres scientifiques pour vérifier qu'ils sont bien faits. Et après, il y a eu énormément d'études sur cette possibilité. Certaines études pointent vers effectivement l'existence d'une planète. Il y a eu aussi, il faut le mentionner, des études qui ont jeté une certaine froideur. Parce que quand on voit qu'il y a des objets sur des orbites alignées dans une certaine direction, c'est qu'il faut se poser aussi comme question, est-ce qu'il n'y a pas des biais observationnels qui nous induit à découvrir préférentiellement les objets sur certains types d'orbites et pas d'autres. Et donc l'évaluation des biais observationnels est très compliquée parce que les objets sont découverts par plusieurs observateurs, avec plusieurs télescopes différents, stratégies observationnelles différentes. Et les observateurs reportent leurs découvertes, mais typiquement, ils ne reportent pas où ils ont regardé, ils n'ont rien trouvé. Et donc, selon comment on modélise ces biais observationnels, certains auteurs concluent que cet alignement orbitale qu'on observe est tout à fait vraie et statistiquement significative, donc il doit y avoir quelque chose qui l'engendre, donc une planète. D'autres disent non, si on tient compte de bio-observationnel, cet alignement perd sa relevance statistique et donc en fait il ne faut rien, donc la planète ne serait pas nécessaire. Il faut savoir que ces objets distants sur lesquels les débats se basent, c'est une dizaine. Donc, ce n'est pas des milliers d'objets. Donc, il faut certainement découvrir davantage avec un relevé observationnel beaucoup plus rigoureux pour vraiment décider, être tous d'accord s'il y a quelque chose à expliquer ou pas. Et là, l'observatoire Vera Rubin, qui rentrera en fonction bientôt, apportera ça. C'est un observatoire construit au Chili qui va étudier tout le ciel visible, visiter tout le ciel toutes les semaines, si je ne me trompe pas, donc permettra de découvrir d'autres objets ou redécouvrir accidentellement déjà les objets connus. Mais l'avantage sera que c'est vraiment une survey très rigoureuse, très répétitive, qu'on peut modéliser, donc on peut modéliser les bio-observationnels, et donc vraiment on pourra statuer s'il y a une anomalie dans la distribution des objets distants du système solaire ou pas.
Donc ça permettra de conforter la théorie, ça permettra peut-être de découvrir directement cette planète, parce que c'est à partir du moment où on se dit, en théorie, il y a une planète quelque part, le ciel est vaste, comment on fait pour la trouver ?
Voilà, donc un observatoire comme Vera Rubin va couvrir tout le ciel. Donc où qu'il soit la planète, normalement, elle devrait tomber tôt ou tard dans les champs de vue du télescope. Après, c'est une question de luminosité. Le télescope Vera Rubin va aller à des magnitudes 24, bon, ça ne peut pas dire grand-chose, c'est des luminosités très faibles, mais la planète pourrait être plus faible que ça. En particulier si, par hasard, elle se trouve aujourd'hui à l'aphélie, donc au point le plus distant de l'orbite du Soleil. On dit, bon, manque de bol, mais en fait, c'est là où les planètes passent plus de temps. Quand les orbites sont elliptiques, les planètes passent très peu de temps près du périhélie, près du Soleil, et beaucoup de temps à l'extrémité opposée, donc le plus loin possible du Soleil.
C'est ce que vous disiez, on ne sait pas où elle se trouve sur l'orbite.
Et on ne sait pas où elle se trouve sur l'orbite. Et statistiquement, elle sera plus près de l'aphélie, donc sa distance maximale, que du périhélie, sa distance minimale. Donc, et si la planète n'est pas très grande, les estimations disent que la planète devrait avoir à peu près 5 masses terrestres. Après, ça dépend un peu de sa nature, donc son albédo, son pouvoir de réfléchir la lumière. Et si la planète est un peu sombre, elle pourrait être un peu sombre, elle pourrait être au-delà de la détectabilité de Vera Rubin. Mais ce n'est pas grave. L'important est que Vera Rubin découvre d'objets distants et puisse permettre de vraiment décider s'il y a une anomalie dans la distribution des objets distants ou pas. Si vraiment cette anomalie est confirmée, ben, il y a sûrement une planète qui peut l'engendrer. Et on pourra commencer à jouer à la Leverrier pour caractériser mieux l'orbite de la planète et peut-être même sa position. Si en revanche, on trouve que cet alignement orbital qu'on voit aujourd'hui est juste l'effet de statistiques des petits nombres bio-observationnels, l'hypothèse de la planète va tomber. Ça sera une bonne décennie de recherches qui...
On aura répondu à une question.
Voilà, on aura répondu de toute façon à une question. C'est ça la beauté de la science. Disons que la science se donne les moyens de confirmer ou infirmer des hypothèses. Et quoi qu'il arrive, on avance. On avance dans nos connaissances. Et
alors, on va rester sur l'hypothèse qu'elle existe pour l'instant, puisque c'est la théorie, on va dire, qu'on essaie de valider, que vous essayez de valider. À quoi elle ressemblerait, cette planète, si on la trouve ?
Ce serait très intéressant, parce qu'elle serait une super Terre. Alors, dans notre système solaire, nous avons deux groupes de planètes, les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, donc la Terre est la planète majeure. Et après, nous avons les géantes, donc Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont des planètes essentiellement gazeuses et avec des masses allant des 300 masses terrestres pour Jupiter à 15-17 pour Uranus et Neptune. Quand on observe les planètes extrasolaires, on observe que les planètes les plus typiques sont des planètes de masse intermédiaire entre la Terre et Neptune, qu'on appelle les super-Terres ou les mini-Neptunes, selon les points de vue, mais c'est les mêmes planètes. Et il n'y en a pas dans notre système solaire. Au contraire, nous avons ce gap, cet intervalle des masses entre 1 et 15 masses terrestres où il n'y a rien. Ces super-Terres qu'on découvre autour des autres étoiles, on les découvre très près de l'étoile centrale. Et dans ces cas, on la découvrirait, elle serait sur une orbite très loin. Sans doute, la planète aurait été mise sur cette orbite un peu bizarre par des instabilités, des rencontres proches avec les autres planètes majeures.
Mais ça veut dire que ça serait vraiment du coup un corps céleste assez inédit dans sa position et pas inédit.
Ça serait inédit, unique dans les systèmes solaires en termes de masse et de taille, typique par rapport aux planètes de la galaxie, assez inédit du point de vue de son orbite. Mais on a découvert aussi des planètes extrasolaires sous des orbites comparables, un peu plus grandes que la planète neuve, mais il existe des planètes extrasolaires sous des orbites très elliptiques, distantes. Et on pense que l'origine de ces planètes est due à des instabilités dynamiques lors de la naissance du système planétaire. Toutes les planètes devraient se former dans un disque protoplanétaire. On observe les disques protoplanétaires autour des étoiles jeunes, donc c'est un fait observationnel. Les planètes se forment dans des disques protoplanétaires, circumstellaires. C'est bien, aujourd'hui on peut affirmer que c'est un fait observationnel, mais à une époque c'était la grande théorie de Pierre-Simon de Laplace. Donc vous voyez que ça, parfois en science, des modèles deviennent des faits. Voilà. Donc les planètes naissent dans un disque et donc forcément, à l'origine, elles ont des orbites circulaires et coplanaires. Donc quand on trouve une planète qui a une orbite très elliptique et inclinée, ben forcément elle ne s'est pas formée sur cette orbite-là. Quelque chose l'a mis sur cette orbite. Et on pense que c'est dû au fait que quand les planètes se forment, il y a plusieurs planètes qui se forment, ces planètes ne se forment pas automatiquement sous des orbites stables. Et donc, à un moment donné, elles sont amenées à interagir entre elles gravitationnellement, et les planètes, c'est la loi du plus fort, hein, malheureusement, de l'espace, c'est comme la loi de la jungle, et donc les planètes majeures perturbent et chassent les planètes mineures, et peuvent soit collisionner, donc les englobent, soit les éjectent du système planétaire. On a découvert des planètes flottantes dans la galaxie, donc des planètes qui ne tournent plus autour des étoiles. Elles ont été éjectées de leur système planétaire et se baladent dans la galaxie, comme les étoiles d'ailleurs. Et il y en a d'autres qui sont simplement envoyées sur des orbites plus elliptiques. Et après, ben, un jeu gravitationnel avec les autres étoiles proches fait si que ben, l'orbite se stabilise. Et donc, elle peut rester sur des milliards d'années, sur l'âge de la vie du système planétaire.
Mais alors c'est intéressant parce que vous parlez des origines. Une fois qu'on imagine que cette planète existe, il y a deux théories pour dire d'où elle vient. Est-ce qu'elle vient du système solaire ou est-ce qu'elle est issue d'un autre système qu'elle l'aurait et que notre système solaire l'aurait absorbée? Parce que si on la trouve, elle est quelque part très loin, elle est aux confins de notre système solaire.
Oui, tout à fait. Donc elle serait sur une orbite d'environ un millier d'unités astronomiques du Soleil, donc 1000 fois la distance Terre-Soleil. Effectivement, il y a deux théories. Donc, elle pourrait être une planète qui s'est formée dans la région des planètes géantes, en même temps que Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, et étant la plus légère, a été expulsée. Et lors de cette expulsion, les perturbations des autres étoiles, qui à l'époque devaient être plus proches que maintenant, parce que typiquement, les étoiles se forment dans des amas stellaires, donc le Soleil sans doute n'a pas fait exception. Donc ces perturbations externes permettent de remodeler un peu l'orbite pour la stabiliser, sinon la planète serait perdue. Donc ça c'est une possibilité. L'autre possibilité est que la planète est tournée autour d'une autre étoile et que cette étoile a rencontré le Soleil, toujours lors des phases précoces, quand les étoiles sont dans des amas. Donc,
on parle d'il y a quelques milliards d'années.
Oui, oui, on est en train de parler il y a 4 milliards et demi d'années. Et quand il y a deux étoiles qui se rencontrent, on peut kidnapper les planètes de l'autre étoile. Alors, il faut déjà que cette planète ait une orbite assez distante de son propre étoile. Si on est très proche de l'étoile centrale...
Elle tient dans ses bras.
Oui, voilà, l'étoile, c'est quand on tient un sac très fort, c'est difficile à les piquer. Mais si cette planète était déjà sur une orbite distante par rapport à son propre étoile et cette étoile a rencontré le Soleil, et surtout si l'étoile était moins massive du Soleil, ce qui est très probable parce que la plupart des étoiles sont moins massives que du Soleil, alors le Soleil aurait pu la kidnapper. Et l'orbite finale, à la fin, est à peu près la même, dans les deux cas de figure. Donc c'est plutôt une question de probabilité. Nous, notre groupe a un peu travaillé sur ça et nous trouvons que l'origine endogène, donc une planète qui est éjectée de la région de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, est le cas plus probable.
Est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres, des planètes cachées?
Oui, en principe, mais il n'y en a pas besoin. Donc en science, on a un principe de l'hypothèse minimale. Donc on propose ce dont on a besoin. Donc il n'y a aucun indice qui pointe vers une autre planète. À un moment donné, il y avait un groupe en Arizona qui avait pensé détecter une autre anomalie dans la distribution des objets de la ceinture de Kuiper. Là, c'était une ceinture de petits corps juste au-delà de Neptune, un peu semblable à la ceinture des astéroïdes, dont des orbites faiblement excentriques, faiblement inclinées. Ils pensaient détecter une anomalie sur les plans de cette ceinture, mais en fait non, ils s'étaient trompés. Donc là, l'hypothèse est tombée. Donc il n'y a vraiment pas de raison de penser qu'il y en ait une autre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Avoir une planète aujourd'hui comme la planète 9, voilà, ça serait quelque chose qui a une probabilité de 30% de se réaliser pendant la formation du système solaire. En avoir deux, ben, la probabilité, ce serait 30% au carré. Donc, ça devient 1%. Donc, ça devient de plus en plus improbable, voilà, d'avoir plusieurs planètes. Voilà, plus en plus hypothétique.
Et alors, comme vous dites que ce sont ces super-terres à laquelle cette neuvième planète hypothétique appartiendrait, ce sont des corps qu'on connaît en dehors de notre système solaire, mais qu'on n'a pas encore trouvé dans notre système solaire. Est-ce qu'il y a d'autres corps qu'on connaît en dehors du système solaire qu'on pourrait un jour découvrir ou dont on aurait peut-être besoin dans les théories pour expliquer le fonctionnement du système solaire? Il y a par exemple des corps comme les naines brunes dont on parle, qu'on trouve ailleurs et qu'on ne trouve pas dans le système solaire.
Il y a eu des travaux dans les passés sur des compagnons stellaires de faibles masses du Soleil pour expliquer certaines anomalies dans les flux de comètes à longue période. Alors, ces comètes à longue période viennent du nuage de Oort. C'est un nuage de réservoir de comètes, elle aussi expulsée de la région de formation des planètes géantes et parquée dans ce nuage sphérique situé à environ à 20 000 fois la distance Terre-Soleil. Et après, avec les perturbations stellaires et galactiques, de temps en temps, des comètes rentrent dans l'intérieur du système solaire, deviennent des comètes à longue période, comme Elbop, par exemple, une comète dans les années 80 particulièrement spectaculaire. Voilà, alors on pensait qu'il y avait certaines anomalies dans la direction de provenance de ces comètes, donc ce qui faisait penser à l'existence d'un compagnon stellaire de faible masse, d'un type naine brune, au super Jupiter, dans ces nuages de Oort. Mais finalement, voilà, avec plus d'observations, meilleures statistiques, lever des débits observationnels, en fait, il n'y a pas d'anomalie. Donc, encore une fois, c'est une hypothèse qui est tombée. Et donc, il n'y a aucune évidence d'un compagnon stellaire du Soleil. Et donc, comme je disais, en science, on aime bien faire les hypothèses minimales. Donc, il n'y a aucune raison d'hypothéser que le Soleil est un compagnon stellaire aujourd'hui.
Si on découvre cette neuvième planète, on a validé une théorie, on peut l'étudier. Elle a un intérêt pour son étude propre, elle a aussi un intérêt sur la compréhension du système solaire, sa formation.
Oui, certainement, parce que ça démontre que les systèmes solaires est passé par une phase très dynamique d'instabilité, c'est assez violente, parce qu'ils vont mettre une planète sur une telle orbite, qu'elle vienne de la région des planètes géantes ou qu'elle soit capturée d'une autre étoile, ben, vous comprenez bien, c'est un moment de grands bouleversements dans l'évolution du système solaire. Les modèles de formation planétaire, en gros, prédisent que les systèmes planétaires se forgent en passant par ces phases d'instabilité violente. Voilà, ça serait une preuve qu'effectivement, ces phases violentes ont eu lieu. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les planètes que nous voyons, les 8 planètes classiques, ont des orbites pratiquement circulaires et coplanaires, que le système solaire n'a pas vécu des phases d'instabilité violente. Notre système solaire nous a un peu induit en erreur, parce que nos planètes, vraiment, ont des orbites quasi-circulaires et quasi-coplanaires. Et c'est ça qui avait inspiré Pierre-Simon de Laplace, et avant lui même Kant, à penser que les planètes se forment dans un disque. D'où l'orbite circulaire et coplanaire. Aujourd'hui, on sait que les planètes se forment dans un disque, mais c'est curieux, autour des autres étoiles, on trouve souvent des planètes sous des orbites très excentriques. Et donc, on a compris que voilà, les planètes se forment sous des orbites bien ordonnées, mais après peuvent interagir entre elles, elles peuvent être instables, et donc les planètes qui restent après ont des orbites très perturbées. Et notre système à nous, donc, en fait, nous induit un peu en erreur, parce qu'on voit ces planètes qui ont des orbites très calmes, mais en fait, c'est le résultat quand même d'une instabilité. Et on voit les résultats de cette instabilité sur, notamment par exemple sur la planète 9, et aussi sur la distribution des populations des petits corps, et pas trop sur les orbites des 8 planètes classiques elles-mêmes.
Donc on a encore pas mal de choses à apprendre et à affiner sur notre système solaire finalement.
Ah oui, tout à fait. Après, bon, il y a l'aspect caractérisation de la physique de ces planètes qui est tout à fait intéressant. Et si on découvre ces planètes, donc ce serait l'unique cas de super-Terre dans notre système solaire. Donc, comme je disais, une planète assez typique autour des autres étoiles. Donc ça permettrait de mieux comprendre la nature physique des super-terres, peut-être plus facilement qu'en étudiant les planètes, les super-terres des autres étoiles.
Les plus éloignées dans d'autres systèmes. Si vous découvrez une super-terre, vous faites une super-fête.
Oui, certainement.
C'était Mars, la nouvelle odyssée, au-delà de la planète rouge, un podcast original France Info en partenariat avec la Cité de l'espace à Toulouse.